Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 12 août 2026. On se retrouve aujourd'hui avec les chiffres du CPI qui paraîtront d'ici ce soir et qui donc auront leur importance pour l'intégralité de cette seconde quinzaine du mois d'août à venir, puisque comme vous le savez, on a eu depuis le mois de février une inflation qui était repartie très très fort du côté des US. On était à 2,4 en février, 4,2 en mai, en descente en juin avec 3,5, et donc on espère, en tout cas au niveau du consensus des analystes, voir à minima cette inflation à 3,4 avec un léger recul au cours du mois de juillet, et ça va être très très important puisque comme vous le savez on a une Fed aujourd'hui qui est un peu dans cet attentisme et avec une communication nouvelle génération de Kevin Warsh qui laisse un petit peu planer le doute et qui laisse ce flottement, et ça les marchés au bout d'un moment ils ne vont pas apprécier. En attendant on a le SOX donc au niveau de l'indice des semi-conducteurs qui marque un petit peu le pas sur le début de cette semaine après nous avoir fait un très très beau rebond la semaine dernière. Pareillement du côté du pétrole où on a eu une progression donc en deux semaines. L'US Oil passe de $75 le baril à 84, mais pour l'instant on est toujours dans une contraction de prix. Le Nasdaq pourrait réouvrir dans le vert aujourd'hui avec le futur donc qui est attendu à 29 716, tandis que hier on a eu un dollar qui de nouveau a retrouvé un tout petit peu de force juste sous les 100 points, et ce qui a permis de faire dégonfler très légèrement là aussi le S&P 500, l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines, ainsi que le Nasdaq, moins 0,32 et moins 0,33 respectivement. Donc un début de semaine qui est un petit peu mitigé. On va voir comment va se passer donc ce mercredi avec un VIX, l'indice de la peur et de la volatilité, qui est toujours très très bas. Et c'est exactement un peu le mood qu'on voit du côté des crypto-monnaies. On y vient dans un instant. On a le gold qui continue donc sa poussée, $4,400 l'once, très très beau retournement ici. Attention, zone dure 4004, moyenne mobile 50 et la zone de décrochage ici des 4004-4450. Les oscillateurs continuent de nous annoncer du beau temps du côté du gold qui potentiellement cet automne, si ça devenait un petit peu plus agité du côté du marché action slash crypto-monnaie, pourrait nous offrir un petit peu une valeur refuge quelque part comme il a tendance à le faire dans ces moments-là. En parlant des crypto-monnaies, le crypto total 2160 milliards latéralise depuis plus de deux mois autour de la moyenne mobile 200, mais c'est surtout du côté de Bitcoin que ça se passe, puisque on est venu, j'ai pas le graphique à vous montrer là à l'écran, donc vous me croirez sur parole pour le coup, puisque c'est une donnée qui est factuelle. On est sur la plus basse volatilité qu'on ait eue des 5 dernières années, peut-être même un petit peu plus. Donc vraiment, à chaque fois qu'on a une contraction de prix telle, des volumes qui sont au plus bas, un désintérêt social qui est tel que celui qu'on l'a connu dans les pires périodes des bear markets précédents, n'en doutez pas, d'ici maximum septembre, on va se prendre une bougie du côté de Bitcoin, soit de plus 10 000, soit de moins 10 000. Donc aujourd'hui, autour des 60-65 000, ne soyez pas choqués si sous 2 à 4 semaines, on a Bitcoin à 70-75 ou à contrario, autour de la fameuse zone des $50,000. Du côté de Ether, $1,900 légèrement en dessous, pareil, on latéralise, on est peut-être un petit peu mieux foutu que du côté de BTC, d'autant plus que quand on observe le ratio ETH-BTC, eh bien, on a la sensation que depuis ce point bas qui a été fait en avril 2025 au moment des tarifs de Trump, on essaie petit à petit de renverser la vapeur. Ceci étant dit, on part de tellement loin par rapport à ce que n'a pas donné justement Ether sur le cycle précédent, avec un BTC beaucoup trop fort qui a attiré vraiment tous les regards et toutes les convoitises. Est-ce que ça va perdurer sur ce cycle donc de 2026 à 2029-2030? Voilà, c'est de ça dont il va falloir vraiment essayer de s'imprégner quelque part pour essayer de faire une allocation qui à la fois ne pénalise pas complètement Ether, voire les altcoins type Hyperliquid, type Solana. Je sais qu'aujourd'hui, il y a bon nombre d'entre vous encore qui veulent croire et rester du côté des alts. Mais comme on dit souvent, quand on a les statistiques aussi qui sortent et qu'on voit que de 4 ans en 4 ans, on a quasiment l'immense majorité qui partent à la cave du côté des altcoins, ça représente quand même un risque de ruine qui est vachement plus important que juste détenir par exemple du Bitcoin. C'est quand même à prendre en considération justement par rapport à l'allocation qu'on veut en faire. Du côté des minières, écosystèmes, crypto, treasury, compagnie, on a Circle qui prend plus 6% et qui est en train de nous faire un double creux ici autour de la zone des 60 à $70. C'est très propre propre pour le coup. Donc quelque chose à surveiller, je pense, pour la suite, puisque ça n'avait pas forcément été pricé en amont, vu que justement on est dans ce dur du bear market, notamment la licence qu'ils ont obtenue récemment du côté des États-Unis. Donc il y a peut-être un coup à jouer de ce côté-là pour une action qui, elle, n'a pas connu justement de bull run pour Circle, contrairement à Coinbase ou quelques autres. Ceci étant dit, comme vous l'aurez compris, de par le manque d'antériorité et d'expérience tout court en termes de prix de marché, ça représente un risque là aussi qui est beaucoup plus important que Coinbase, qui désormais a été introduite, comme vous le savez, depuis le printemps 2021. Cypher qui défend son support autour de la moyenne mobile 50, plus 5,39 hier à 17. On a Riot aussi qui nous a fait un petit peu le yo-yo, puisqu'on aurait un deal avec Anthropic. Donc là aussi, c'est bizarre que ça ait fait un appel contre appel sur une si bonne nouvelle. Il y aura peut-être quelque chose à surveiller par la suite, d'autant plus qu'on est sur une énorme zone de polarité ici pour Riot. Toute cette zone comprise donc autour des 20$ à plus ou moins 2$. Concernant Coinbase, ça continue de consolider. Pareil, la volatilité est au plus bas ici, donc ça va suivre très certainement ce que va nous faire BTC, en espérant que dans un premier temps, quand bien même d'ici cet automne, on verra peut-être les fameux 50-55 000$. Est-ce qu'on ne prendrait pas un peu le contre-pied façon S&P pour aller chercher les 70-75? Comme d'habitude, il y a des gens qui se positionnent à levier, donc ça va essayer de liquider dans les deux sens. MicroStrategy, pareil, on est dans un tout petit resserrement ici, un triangle rectangle qui malheureusement devrait continuer dans le sens de la tendance. Là aussi, on ne sait pas en quel sens justement ça va partir à court terme. Donc une volatilité depuis un mois et demi qui est complètement cassée pour MSTR. Côté actions américaines, alors là on est sur le Nasdaq, puisque comme vous le savez, il y a des actions qui ont été introduites que récemment sur le Nasdaq, puisque c'était des actions asiatiques. Et c'est le cas de SK Hynix qui, depuis 2-3 semaines, vous voyez, nous fait des volatilités complètement folles. On passe de moins 20, moins 30 sur une semaine, on rebondit de plus 20 la semaine suivante. Là aussi, il y en a beaucoup qui disent que les microns et tout ce qui va bien au niveau des chipsets et de tous ces fondeurs donc qui aujourd'hui alimentent et sont la source principale pour l'IA, d'un point de vue matériel finalement, seraient complètement sous-cotés. Et c'est là où les émissions sont très complémentaires, notamment comme Xavier Delmas ou Julien Flo ou Bourseco, enfin il y en a plein aujourd'hui qui sont très quali pour le coup et qui mettent en avant les PE. Et quand on parle des 7 magnifiques par exemple, on est souvent quelque part entre 20, 25 à 30 et plus. Et là on aurait des microns par exemple, c'est les chiffres que j'ai vus hier, je suis pas allé les recouper moi-même, mais je pense que c'était des graphiques qui émanaient justement de grandes banques, etc. Donc ils savent de quoi ils parlent. On était sur des PE autour de 5, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, quand bien même on a eu des runs complètement dégénérés, si je puis dire, du côté des semi-conducteurs, on serait encore complètement sous-coté, si on s'en fie justement au price-earning ratio. Donc c'est un peu en ce moment très complexe, j'ai envie de vous dire, à la fois de se positionner sur ça quand on voit, bien que là le graphique soit trop récent sur le Nasdaq pour en discuter justement vis-à-vis de l'historique, mais c'est des graphiques qui ont eu des poussées en centaines, voire en milliers de pourcents sur les deux dernières années. Donc à partir de là, est-ce qu'on a envie, par exemple, comme Micron, de se positionner après un run qui l'a fait passer en avril 2025 de 62$ à ce top récent de juin 2026 à 1258$? Eh bien, les PE nous disent que oui, en théorie, on est toujours sous-coté par rapport aux espérances du futur. Et c'est là où vient un peu s'entrechoquer quelque part à court terme, on va dire court-moyen terme, la réalité du marché qui peut être dans très longtemps, on parle là en plusieurs années, voire 5 à 10 ans, portera ses fruits vis-à-vis de tout ça et aura complètement délivré un petit peu, comme si on compare la bulle Internet des années 2000. C'est pas parce qu'il y a eu une énorme purge à un moment donné que derrière, aujourd'hui, en 2026, on n'utilise pas tous Internet. Il y a eu l'avènement des réseaux sociaux à compter de 2010 à peu près et ça a accéléré après en 2015. Donc il y aura forcément de très belles choses qui vont se passer et des sociétés qui aujourd'hui, par exemple pour Micron, se négocient autour de 860 et peut-être que dans 5 ou 10 ans, elle sera à 5 ou 10 000, mais entre-temps, elle peut très bien perdre 70, 80, 90% de sa valeur sans que ça remette en cause tous les fondamentaux de ce qu'il y a autour de l'IA, etc. Donc c'est plutôt de ça aujourd'hui dont il faut essayer de jauger, tout en ayant bien en tête que plus les chiffres paraissent, en tout cas pour cette partie latente tech du côté des États-Unis, plus on a la sensation que effectivement on n'en est pas encore au bout de cette bulle et que même si on s'en fie à ces fameux PE, on n'en serait qu'au tout début, puisque aujourd'hui, eh bien, malgré des runs extraordinaires, extravagants, on n'a pas eu des PE qui ont complètement explosé. Et à ce jeu-là, eh bien entendu, il y en a un qui est le contre-exemple parfait, c'est les espoirs qui sont placés du côté de Tesla, avec un PE, je crois, aujourd'hui, qui est autour de 100 ou quelque chose dans ces eaux-là, et des gens donc qui pensent que le futur vaut, en tout cas d'un point de vue spéculatif toujours, la prime, le risque à payer. Et il y a Elon Musk aussi qui rentre en ligne de compte face à tout ça et qui pense que Tesla n'est pas surcoté quand on a un PE à 100 par rapport à un Micron qui a un PE à 5. Donc vous voyez un petit peu le deux poids deux mesures dans lequel au final eh bien, la bourse essaie d'avancer aujourd'hui. C'est assez extraordinaire la période qu'on est en train de traverser, puisque peut-être que justement dans les prochaines années de notre vivant, j'ai envie de dire, on va connaître la bulle de l'IA façon bulle internet, on va connaître le crack absolu justement de l'IA, de la même façon que ça a été toujours au niveau des grandes découvertes et des grandes révolutions, peu importe à quel moment ça arrive, il y a un moment où on est parti beaucoup trop loin, beaucoup trop vite, beaucoup trop haut, et on finit par revenir à une certaine normalité. Mais en tout cas aujourd'hui, eh bien, le marché n'a pas l'air dans l'immédiat de nous tirer justement quelques sonnettes d'alarme que ce soit. Côté France, on a Total Energy qui continue de nous faire donc légère poussée. Il y a à peu près un mois et demi, on était à 65 euros, de retour à 76, et on a donc un ATH à venir chercher au-dessus de 81 euros. Schneider Electric qui continue de s'arracher, donc là aussi on a eu un très beau pivot pour Schneider. Il continue bien entendu de produire le matériel électrique et de donner le côté énergétique également, mais ils ont su s'adapter à cette demande autour de l'IA, et c'est ce qui est très largement salué par le marché depuis pas mal de temps aussi. Le point d'entrée parfait était autour des tarifs de Trump, 172 euros, moyenne mobile 200 et support long terme. Donc on voit quand même de temps en temps que l'analyse technique fonctionne, et sur des titres comme ça, type Air Liquide, Schneider, Total, AXA, on a Vinci, on a BNP. Voilà, en général, les titres qui sont très haussier au long terme, qui en plus pour la plupart verse du dividende, etc., en général ça se passe plutôt pas mal quand on observe justement sur des historiques qui sont en décennies. Du côté des altcoins, on a Taobi Tensor qui continue de défendre le support des plus ou moins 200 $, pareil pour Hyperliquid qui nous fait un retest de la zone des 55-56 $. C'est un peu une zone de cassure, une zone de polarité, les 55-56 pour Hyperliquid, donc à voir à court terme, et ça va être totalement dépendant, comme vous l'aurez compris, du prochain mouvement de Bitcoin. Si Bitcoin nous fait plus 10 000, les alts vont connaître également une poussée en dizaines de pourcents, certainement. Si Bitcoin nous fait malheureusement moins 5 à moins 10 000, ça sera dans des proportions qui seront tout aussi importantes à la baisse. Il y en a un que je surveille plus vraiment, mais qui est revenu sur le support très très long terme sous les 10 centimes, c'est Algorand. À vérifier avec ce que fait la team aujourd'hui, mais du côté des réseaux sociaux, honnêtement, j'en ai quasiment pas vu parler ces dernier trimestre. Ceci étant dit, c'est parfois le bon moment justement pour s'intéresser au projet. Solana qui est toujours sous cette zone des 75 à 80 $, on ne passe toujours pas, mais on a peut-être un double creux qui est en train de se matérialiser ici. Je reste quand même dubitatif sur le fait que le point bas ait été fait sur bon nombre d'actifs comme ça. Ça serait là aussi un petit peu trop simple, bien que Solana par rapport à son point haut de quasi 300 $ a déjà reculé de moins 80%, contrairement au cycle précédent où sur la déroute notamment de FTX et Alameda, on le voyait quasiment mort et il avait reculé de moins 97%. Donc ceux qui ont vraiment porté leur hum-hum à 8 $ à l'époque en décembre 2022 pour payer Solana ici, ont pris un risque qui à cette époque était un risque immense, mais derrière en effet ça a été payant, puisque 8 $ à quasi 300, ça nous a fait une poussée de 3642%. Donc inutile de vous dire que c'était un risque qui s'est avéré payant, mais à l'époque ici, quand on était à 8, il y avait aussi un risque de ruine qui était très très important. Donc félicitations à ceux qui ont réussi à l'avoir justement autour de 10 $ pour Sol sur le cycle précédent. Quand même, c'est un petit peu plus agréable, j'ai envie de dire, de le payer potentiellement aujourd'hui autour de 70 à 80 en n'ayant pas cette épée de Damoclès FTX Alameda sur la tête qui à l'époque, là aussi, voilà, ça aurait pu causer beaucoup plus de tort encore que ça en a fait. C'était déjà dramatique pour bon nombre de personnes et de portefeuilles qui ont été complètement ruinés, du moins temporairement, puisque aujourd'hui, si je dis toujours pas de bêtises, pour FTX en particulier, normalement, ils ont remboursé quasi l'intégralité des utilisateurs. Il leur reste peut-être quelques vagues à venir. La problématique, c'est qu'entre-temps, il y a eu un autre cycle et que la plupart du temps, ils remboursent sur les fonds qui étaient à cette époque. Donc, pour ceux qui avaient du Bitcoin ou de l'Ether ou du Sol ou du BNB ou je ne sais quoi, ou du Tao Bitensor, bien que ce n'était pas du tout le sujet à l'époque de 2022 de FTX, ils ont été remboursés sur le prix de l'époque. Et ça, c'est sûr que également, ça a fait un double trou dans la raquette. Chainlink également, qui continue de faire sa petite vie, il a défendu la médiane de range à 7$, on est de retour sous les 9$. Ça reste du range un petit peu yo-yo comme on avait fait à l'époque, il y en a qui continuent d'y croire. Ça en fait un des altes aujourd'hui qui, sur le papier, est un des projets qui est nécessaire. D'un point de vue spéculatif, est-ce que véritablement il faut détenir du Link en portefeuille? La question se pose. Et on clôture avec l'Asie comme d'habitude, on a Samsung qui nous pousse plus 7, là aussi énorme volatilité, c'est assez difficile de rentrer sur ce genre de titre, tandis que le Kospi valide depuis 3 semaines la reprise de ce support des 6300 à 6500 points, donc l'indice de la Corée qui continue d'être drivé par beaucoup de leviers là aussi et beaucoup d'espoir. Et en ce moment, la question qu'on se pose aussi, c'est tout ce qui se passe du côté du Japon, ça commence à reparler de Yen Carry Trade, etc. Donc c'est peut-être plus du côté du Japon qu'il faut tourner son regard. En attendant, on a Nintendo qui depuis un mois et demi nous a fait une poussée quand même assez conséquente. On est au contact de la moyenne mobile 200 et on est désormais à plus 30%, donc ça va très très vite hein, quand on a des extensions comme ça. Le taux à 30 ans au Japon est juste sous les 4 points, le 20 ans à 3,72. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait le même exercice pour les États-Unis qui ce jour pour le 30 ans sont à 5,23, le 10 ans est à 4,68 et le 20 ans juste sous son point de polarité ici des 5,23, donc on est toujours très très haut hein, pour les taux des États-Unis. Toujours pour le Japon, le Topix passe à 4139, on va très certainement faire un nouvel ATH, le Nikkei pour sa part 67705, là aussi gros rebond depuis 2 semaines. On va voir donc l'Asie si elle arrive à remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On a le Shanghai Composite Index qui se hisse juste au-dessus de la moyenne mobile 50. Et enfin, au niveau des perdants, on a Xiaomi qui recule de moins 1,28 au contact de la MM200. On a moins 2,25 pour Tencent qui nous fait un truc un petit peu bizarre. On a eu une poussée certes d'une vingtaine de pourcents, mais j'ai la sensation que la gravité refait appel potentiellement à la moyenne mobile 200 pour Tencent. Et enfin, Alibaba qui, après nous avoir fait un gap de rupture la semaine dernière sur le NYSE entre les 122$ et on était venu chercher 131 à 132 plus, est en train là aussi potentiellement de prendre un petit peu de profit et on reverra peut-être les 120 à 122$ justement pour refermer cette petite zone qui permettra aux traders justement de déboucler pour ceux qui étaient positionnés dans des zones comme ça qui n'ont pas été visitées par le cours dû à ce fameux gap. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne journée. Comme vous l'aurez compris, ce soir, les chiffres de l'inflation des États-Unis vont avoir un poids assez énorme pour les prochaines semaines et surtout pour cette semaine en particulier. On va voir si les anticipations du marché sont respectées. Si jamais ça part trop haut ou trop bas, je vous invite bien entendu à consulter l'émission de ce samedi. En fin d'émission, à chaque fois, on donne les scénarios et qu'est-ce qu'il pourrait se passer justement en fonction de ces chiffres sur la semaine d'après. Et en théorie, le consensus en général se trompe pas trop sur le CPI. Donc si ça se trompe pas, ça veut dire que tout ce que vous avez ici sur les écrans est déjà connu et déjà pricé à l'avance, ce que n'aime pas le marché, que ça soit en positif ou en négatif, d'ailleurs c'est un petit peu bizarre, mais en général il n'aime pas être surpris tout court, et c'est là où ça fait bouger un petit peu les algorithmes, les lignes, et que de temps en temps ça déclenche donc des cascades de liquidation ou des mouvements qui sont un peu erratiques et qui à leur tour de temps en temps ont tendance à faire déclencher cette fameuse pile de dominos. Très bonne journée et on se retrouve ce samedi. Ciao ciao.